Help! Pour qui voter?
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Annabelle et Arnaud et nous sommes ravis de vous accueillir dans ce nouveau podcast.
L'idée du podcast, c'est de vous donner toutes les clés nécessaires, sans parti pris, afin que vous puissiez voter en toute connaissance de cause en juin prochain.
En tant que jeunes citoyens, nous avons remarqué qu'il n'existait pas vraiment de moyen facile de comparer les programmes des différents partis politiques. C'est pourquoi ici, nous avons invité les présidents de partis francophones à nous exposer leurs opinions sur 10 thématiques précises et identiques pour tous.
Alors pour rappel, en Belgique francophone, nous avons à l'extrême gauche le PTB, représenté ici par leur porte-parole Germain Mugemangango. À gauche, on retrouve le PS de Paul Magnette, ainsi qu'Ecolo, représenté par sa coprésidente Raja Mawan. Au centre, on retrouve Défi de François de Smet et Les Engagés, ex-CDH, représentés par Maxime Prévost. À droite, enfin, on retrouve Georges-Louis Boucher pour le MR.
Chaque semaine, donc, vous retrouverez les réponses des présidents sur une thématique précise. Cette semaine, nous allons parler avenir de la Belgique et neutralité de l'État. Nous avons interrogé les présidents sur leur structure étatique idéale ou sur la nécessité d'une nouvelle réforme de l'État.
Dans un second temps, nous avons également sondé les positions de chacun sur la neutralité de l'État, sujet ô combien brûlant. On commence tout de suite avec Germain Mugemangango, porte-parole du PTB.
Ben, en tout cas, c'est clair que les gens qui pensent que la Belgique est trop compliquée, ils ont totalement raison. Donc, quand on voit qu'on a été confronté au fait de gérer une crise sanitaire avec 9 ministres en charge, finalement, de cette crise sanitaire, 9 ministres de la Santé, avec 4 ministres du Climat, donc on a 4 ministres du Climat, mais toujours pas de stratégie nationale du Climat, on a 4 ministres de la Mobilité, mais toujours pas de stratégie nationale de mobilité, et donc, de ce point de vue-là, oui, effectivement, la Belgique est beaucoup trop compliquée. Et donc, on a surtout beaucoup trop de ministres, puisqu'on est dans un pays extraordinaire, on a 54 ministres, c'est quand même assez fou. Donc je crois que les gens ont raison de se plaindre de ça. Si on prend l'exemple des Pays-Bas, il y a 20 ministres. Donc je veux dire, des pays aussi grands que la France, par exemple, il y a aussi une quinzaine de ministres. Donc je veux dire, de ce point de vue-là, on a un problème, évidemment, en Belgique. On a aussi un problème de transparence. Je veux dire, on a aussi une forme d'opacité dans la classe politique. Donc on constate par exemple que, pour prendre l'exemple de la Hollande, chaque ministre en Hollande a 5 personnes qui constituent son cabinet. Okay, et pour le reste, travaille directement avec son administration. Dans le gouvernement de la région Wallonne, il y a en moyenne 60 cabinetaires par ministre. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est indispensable? Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est même, en fait, même contre-productif, puisque ces 60 personnes qui sont dans les cabinets, 60 cabinetaires, en fait, sont finalement, quelque part, une forme de d'étage supplémentaire entre l'administration et le ministre. Donc, et donc, certaines personnes qui sont, justement, soit des syndicalistes dans le secteur de l'administration, se plaignent même de ça. En fait, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Et donc, de ce point de vue-là, oui, il y a effectivement quelque chose à faire dans la manière dont la Belgique fonctionne. Et donc, pour nous aussi, on entend maintenant, bah, je crois que c'est Ecolo qui s'exprimait pour dire qu'il fallait une Belgique à 4 régions. Donc pour nous, en fait, c'est clair qu'il ne faut pas aller plus loin dans la séparation des compétences. C'est le contraire qu'il faut faire. Il faut envisager que certaines compétences redeviennent fédérales.
Qu'en est-il de la neutralité de l'État? Quelle est la position de votre parti sur cette question?
Bah, pour nous, évidemment, la question de la neutralité, elle peut être vue de deux manières. Et donc, c'est la loi qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Le plus important, c'est qu'il y ait une neutralité dans les services qui sont fournis. Okay, donc, évidemment, quelle que soit votre conviction religieuse, quelle que soit votre orientation sexuelle, quelle que soit votre origine culturelle, les services publics ont l'obligation de vous rendre le même service en toute neutralité. Okay, et donc, ça, c'est comme ça que le conçoit la loi. Donc certains le conçoivent autrement et disent qu'il faut avoir une forme de neutralité aussi dans l'apparence, il faut avoir une neutralité dans l'attitude, etc. Mais donc pour nous, ce qui est très important évidemment, c'est que le service soit rendu, ça c'est vraiment très important. Et l'autre élément, c'est évidemment, parce qu'on parle évidemment du port du voile et du port de signe convictionnel, de voir ce qui se passe dans des régions, dans des communes dans notre pays où ça pose pas de problème. Donc quand on voit ce qui se passe à Malines et à Gand, par exemple, dans ces villes-là, en fait, le port de signes convictionnels ne pose aucun problème. Et donc, que ce soit évidemment pour le personnel qui soit, comme on dit, en back-office, hein, donc qui soit effectivement dans les bureaux, ou le personnel qui représente finalement la ville dans les services finalement communaux, eh ben, il n'y a aucune protestation, aucun problème que pose le fait que les personnes décident oui ou non de porter un couvre-chef ou pas. Et donc, de ce point de vue-là, pour nous, l'essentiel, c'est évidemment que les services qui soient rendus à la population le soient de manière qualitative et le soit de manière neutre. Et donc, on n'est pas du tout d'accord avec le MR, par exemple, M. Boucher ou M. De Smet, qui disent qu'il faut interdire les ports de signes convictionnels pour la fonction publique, parce que finalement, le résultat, ça va être quoi? Le résultat, ce sera évidemment qu'on va exclure une partie des gens de la société. C'est ça qui va se passer. Donc, ces gens-là qui parlent justement d'émancipation, notamment des femmes, bah, comment on peut dire qu'on veut effectivement œuvrer pour l'émancipation des femmes alors qu'on leur a interdit d'avoir un travail? Alors qu'on leur a interdit d'avoir une autonomie financière via le boulot? Donc, ça n'a pas de sens. Parce que moi, je suis quand même étonné quand j'entends, par exemple, M. Boucher dire « Oui, mais bon, certains ne sont contre cette interdiction pour des raisons électoralistes. » Ben non, ce qui m'inquiète justement, c'est que certains sont pour ce type d'interdiction pour des raisons électoralistes. Pour aller chercher justement des votes qui sont xénophobes ou des votes qui sont inquiets de cette diversité, qui sont des votes d'extrême droite, pour justement pouvoir finalement faire leur jeu électoral. Et donc ça, faire ce jeu-là, c'est très dangereux, et ça se fait justement aux dépens des personnes qu'on dit vouloir défendre, à savoir ces femmes qui justement préféraient avoir un travail que ne pas en avoir un.
Maxime Prévost, pour les engager.
On dit souvent que si vous prétendez avoir compris la Belgique, c'est la meilleure preuve que vous ne l'avez pas comprise. Parce qu'effectivement, c'est devenu tellement compliqué aujourd'hui que même les professionnels dont nous sommes, on peine parfois avec certitude à savoir quelles compétences relèvent de quel niveau de pouvoir. On a une lasagne qui est devenue indigeste. Et toutes les réformes de l'État auxquelles on a pris part ces dernières années sont finalement des réformes de l'État qui ont été le fruit de rapports de force entre partis politiques, bien plus que le résultat d'une recherche d'optimalisation des politiques publiques. Je pense qu'on doit réhabiliter la culture de l'évaluation des politiques publiques, ne pas avoir peur de dire qu'on a fait fausse route, qu'on s'est gouré, qu'on était peut-être animé par les bonnes intentions quand on a fait la réforme de l'État, mais que ça n'a pas mené au résultat attendu. Vous savez, c'est un peu comme quand vous vous mariez, hein, vous dites oui, c'est pour la vie, parce qu'au moment où vous le dites, vous en êtes persuadé, ça ne vous empêche pas 15 ans après de divorcer. C'est pas pour ça que quand vous l'avez dit 15 ans avant, oui, c'est pour la vie, vous manquiez de sincérité, vous étiez probablement persuadé que c'était la femme ou l'homme de votre vie. Bon, mais en politique, ça peut être la même chose. On prend parfois des décisions en étant convaincu qu'elles vont donner de bons résultats, mais il faut par contre avoir leur courage 10 ans après, parfois, de reconnaître c'est pas le cas. Et ça, il y a trop peu de politiques qui le font, un peu comme s'ils allaient devoir faire l'aveu d'incompétence. Moi, je crois qu'on doit être beaucoup plus dans un mood anglo-saxon en la matière et reconnaître que quand quelque chose a foiré, il faut le rectifier. Je suis demandeur d'une réforme de l'État si réellement, comme je viens de l'expliquer, elle vise à améliorer l'efficacité des politiques publiques. Aujourd'hui, par exemple, on a beaucoup trop de compétences partagées entre les niveaux de pouvoir. Vous avez certains domaines d'action pour lesquels c'est un peu la région qui a des leviers, un peu le fédéral. Finalement, tout le monde étant responsable un peu de quelque chose, au final, plus personne ne l'est réellement pour quoi que ce soit.
Concernant la limitation des mandats.
Alors, en tout cas, on a une vision qui est pas du tout hypocrite comme les écolos, qui font croire qu'eux ont une volonté de limiter les mandats, mais qui, à chaque fois, se donnent des dérogations d'élection en élection. Il suffit de voir depuis combien d'années une série d'entre eux sont présents pour se rendre compte que c'est bien au-delà des deux mandats. Pour ce qui nous concerne, on est très clair, on considère que, s'agissant des députés, ça doit être 3 mandats maximum, à partir donc du prochain scrutin. Pour les ministres, 2 mandats maximum. Nous ne sommes pas contre le cumul entre une fonction de député et de bourgmestre ou échevin, par exemple, parce que c'est important que la réalité de terrain puisse être reliée dans les assemblées parlementaires. Sinon, on n'a que des philosophes qui raisonnent sur des principes bien sympathiques, mais qui ne se rendent pas compte de l'impact que ça a sur le terrain. Par contre, ce cumul des fonctions, il ne peut pas s'accompagner d'un cumul des rémunérations. Donc si vous souhaitez relayer la réalité de terrain dans les parlements et que les citoyens vous en donnent l'occasion grâce à leur confiance et que vous êtes député bourgmestre par exemple, il n'y a qu'un des deux salaires qui pourra être perçu parce que l'argent ne saurait jamais, pour les engager, être un motif de motivation à l'engagement politique. Ça c'est très clair et donc on a révisé ces mesures de cumul dans le temps, de limitation du nombre de mandats et d'interdiction de cumul de rémunération.
Enfin, sur la neutralité de l'État.
Ah, pour nous, c'est essentiel de garantir l'impartialité de l'État. L'impartialité de l'État, ça veut dire qu'il n'y a pas de capacité d'avoir finalement des religions qui influencent l'action politique. L'action politique, elle ne doit pas être guidée ou influencée par les orientations religieuses. La loi doit primer sur la foi. Mais nous continuons pleinement de respecter les enjeux de spiritualité. Nous serons toujours les premiers à nous battre pour que le droit à la spiritualité de chacun soit reconnu, garanti et préservé. Mais ça relève de la sphère privée. Ça n'a pas à influencer l'action politique. Et donc, nous sommes favorables à ce que ces principes de neutralité ou d'impartialité soient inscrits, par exemple, dans la Constitution, mais nous ne sommes pas d'accord avec le principe de la laïcité. Pourquoi ? Parce que la laïcité à la française, on ne sait pas la transposer en Belgique. Pour une raison simple, c'est qu'il y a plusieurs années, le courant laïque en Belgique a accepté d'être financé par l'État comme un culte, certes un culte non confessionnel, mais un culte quand même. Et donc en acceptant ces subventions étatiques, au titre d'un mouvement cultuel, il s'est mis sur le même niveau que les autres courants religieux ou philosophiques. Et donc il ne peut plus prétendre à vouloir se mettre au-dessus de ceux-ci en étant inscrit dans la Constitution. Et donc c'est pour ça que le mot laïcité est un problème, mais par contre ce qu'il est censé représenter, c'est-à-dire cette volonté d'une impartialité de l'État, d'une équidistance par rapport à tous les courants religieux et philosophiques, donc de cette neutralité de l'action publique, ça évidemment pas de problème. Mais c'est ce que j'explique souvent à nos amis de défi, le mot laïcité, il ne saurait pas à cause de cette situation, en Belgique du moins, être un copier-coller de ce qu'on connaît en France.
François de Smet, du parti Défi.
J'aimerais bien qu'il y ait une nouvelle réforme de l'État pour corriger les erreurs des précédentes. On a toujours réformé dans ce pays à partir des années 70, non pas sur base rationnelle, mais chaque fois parce qu'il y avait une forte demande d'autonomisation de compétences d'un côté, socialement en Flandre, et une forte demande d'argent de l'autre, parce que soit on gère mal les compétences reçues, soit on a mal négocié la fois d'avant côté francophone. C'est toujours le même schéma qui se dessine. Pour nous, le critère numéro un, c'est on n'a pas de tabou sur le niveau de compétence où peut s'exercer une compétence, mais quelle est le plus efficace? Et si vous regardez rationnellement ce qui est efficace, alors il y aurait par exemple une certaine logique à garder tout le régalien au fédéral, à refédéraliser aussi tout ce qui concerne la sécurité d'existence, c'est-à-dire la santé. Effectivement, il y a 9 ministres. Et pendant de la santé, on a vu que pendant le Covid, ce n'était pas exactement toujours une bonne idée. La lutte contre la pauvreté, les allocations familiales qui ont été stupidement divisées lors de la 6e réforme de l'État, la politique sur le handicap. Il nous semble que tout ça, parce que ça nous semble logique qu'un État fédéral fort ait un socle de solidarité forte, tout ça, ça peut revenir au fédéral.
Qu'en est-il des francophones de périphérie ?
D'abord, on est les derniers, je crois, à encore s'en occuper. Il y a objectivement une forme de démobilisation des francophones de la périphérie depuis la scission de l'arrondissement de Bruxelles-Halle-Vilvoorde, qui est sans doute explicable par des raisons politiques, sociologiques. On sent que ce sont des... Alors, ils sont nombreux, hein, ils sont entre 150 et 200 000, mais c'est comme si un certain nombre d'entre eux avaient acquis, s'étaient rangés à l'idée de profiter des avantages de la Flandre et de la proximité de Bruxelles, les avantages en général fiscaux de la Flandre et la proximité d'une grande capitale. Et que, vu que les dégâts sont limités dans le non-respect des facilités, pensent-ils, on peut s'en accoutumer. Or, les facilités sont toujours attaquées. Il y a un certain nombre de discriminations tout de même à réel, notamment si on sert de l'acquisition de terrains ou de logements. Il y a des politiques vexatoires dans toute une série de communes, et je pense qu'on doit continuer les francophones à inviter à être représentés, et donc à voter pour des listes, soit des filles, soit des listes francophones, en tout cas en périphérie, que ce soit au niveau régional flamand, où il serait quand même bon qu'un député francophone revienne comme représentant des quelques 200 000 francophones de Flandre, ce ne serait quand même pas trop demandé. Et on voudrait que dans toutes les communes autour de Bruxelles, il y ait un référendum et que les communes soient consultées sur leur avenir. Veulent-elles continuer à rester en Flandre, en particulier dans une Flandre potentiellement administrée par la NVA et le Vlaams Belang demain, ou avec donc des risques d'autonomisation et d'indépendance réelle, ou ces communes, leur population, souhaitent-elles un destin plus fort, par exemple en intégrant la région bruxelloise? Je pense, pour être complètement honnête, que c'est une discussion qui se ferait réellement en cas de perspective de fin du pays. Parce que si on se met vraiment à négocier la fin du pays, alors on va devoir négocier, discuter frontières aussi.
Vous parlez beaucoup de laïcité politique. Est-ce que vous pouvez nous éclairer à ce sujet ?
La laïcité politique, c'est plusieurs choses. Ça ne se confond pas avec la laïcité philosophique. Le mot laïcité est souvent très ambivalent en Belgique, donc on ne parle pas du centre d'action laïque, et on ne parle pas du rassemblement des gens qui ont une conception athée ou agnostique de la vie. C'est leur droit, mais c'est pas ça la laïcité politique. La laïcité politique, c'est un principe politique qui peut concilier à la fois des athées, des agnostiques et des croyants, et consistant à dire que l'État et la sphère religieuse doivent être strictement séparés, que l'État a la prépondérance en termes de hiérarchie sur le religieux, pas seulement quand il s'agit de célébrer des mariages civils avant des mariages religieux, mais en toute matière. C'est la préservation de la liberté de religion et de toute croyance. Et ça va de pair pour nous avec plusieurs mesures, comme la neutralité stricte, en ce compris d'apparence, dans les institutions. Jamais pour les usagers, jamais dans la rue, jamais dans le secteur privé. Non, juste dans les administrations publiques, pour les gens qui travaillent pour l'État et qui incarnent l'autorité d'État, à quelque niveau que ce soit derrière un guichet ou pas. Et pourquoi il faut l'ancrer dans la Constitution ? À cause du flou et de l'ambivalence sur la neutralité de l'État, vous avez à la fois des décisions de justice, comme pour l'Actiris et la STIB, qui vont vous expliquer que la politique de neutralité est discriminatoire. Mais par ailleurs, vous avez des décisions judiciaires dans l'autre sens. La ville de Bruxelles, la commune de Hans, ont obtenu des décisions de tribunaux belges et européens consistant à dire, ben non, c'est pas discriminatoire.
Raja Mawan pour Écolo.
Pour nous, parce que la question c'était aussi, est-ce qu'on envisage une réforme de l'État ? C'est pas notre priorité numéro un. On est prêt et on sort le week-end dernier d'un week-end où on a travaillé avec Écolo et Groen. On a adopté toute une série de propositions en commun. Ça sort de ces 3 ans de parcours Écolo et Groen, donc un parti néerlandophone, un parti francophone qui ont travaillé sur l'institutionnel. Donc c'est possible. Et on l'a fait, on est arrivé à une position commune. Et donc, on est prêt, le cas échéant, s'il faut. Ce n'est pas notre priorité numéro une. Mais pour nous, si jamais réforme de l'État il y a, c'est pour, un, rendre les choses beaucoup plus lisibles, pour qu'il y ait différents... On aura, bien sûr, différents enjeux et différentes priorités. Mais pour nous, c'est clair qu'on veut simplifier le modèle fédéral et le rendre beaucoup plus clair et beaucoup plus lisible. Je l'ai dit, c'est incompréhensible pour les citoyennes et les citoyens. Ils ne savent pas pour qui ils votent, ils ne savent pas quelles sont les institutions. Et ça, ce n'est pas OK. Pour qu'un État démocratique fonctionne bien, les citoyens et les citoyennes doivent comprendre dans quel environnement institutionnel ils évoluent. Donc, pour nous, il y a toute une série d'éléments sur lesquels on s'est mis d'accord. C'est... l'établissement d'un État fédéral un peu plus fort, c'est-à-dire qu'en temps de crise, qu'on ait un vrai maître à bord et que ce soit l'État fédéral qui soit ce vrai maître à bord et qu'il ait le dernier mot, ça réinstaure un peu une hiérarchie des normes, mais c'est clair qu'on l'a vu pendant le Covid, quand tout le monde doit se mettre d'accord, à un moment donné, c'est bien que le dernier mot revienne au fédéral. C'est là aussi, en ce sens, qu'on propose un renforcement de certaines compétences fédérales, puisque... On peut parler de la santé, par exemple. Pourquoi pas la santé ne serait pas refédéralisée, puisque ça permettrait une unité de commandement, une unité de lisibilité. Autre élément qu'on a porté ou qu'on a envie de porter, c'est une simplification des institutions bruxelloises. C'est un joyeux bordel, pour le dire gentiment. Et donc, nous, on est pour, par exemple, la suppression de la COCOF et de régionaliser certaines de ces compétences-là. Toujours dans une question de lisibilité. Et puis, pour nous, une réforme de l'État doit s'inscrire dans une, je l'ai dit, simplification des institutions, mais surtout une meilleure lisibilité, parce que c'est bon pour notre démocratie, c'est bon et c'est essentiel que les gens comprennent quel est l'environnement institutionnel de leur pays.
Au sujet de la neutralité de l'État.
Mais pour Écolo, la neutralité de l'État et la neutralité tout court, elle est extrêmement importante. C'est ce qui garantit l'égalité, l'équité de toute une série de nos institutions et de nos organismes en Belgique. Cependant, nous sommes pour une approche inclusive de la neutralité. En ce sens, nous, Écolo, estimons que la neutralité, elle ne se mesure pas dans les apparences, mais elle se mesure dans les actes qui sont posés. Une apparence neutre, ça n'existe pas. Le fait de porter certaines chemises et pas d'autres, certaines paires de chaussures plutôt que d'autres, ça coupe et rien n'est neutre. Et donc la neutralité, par contre, et là on est extrêmement attaché à ça et on est extrêmement intransigeant là-dessus, c'est sur les actes qui sont rendus. Nos positionnements font qu'en fait, on n'est pas suspect en la matière, même si certains veulent nous dépeindre comme des chantres de l'islamisme ou du retour du religieux. Moi, je dénonce avec force ces accusations, puisque nous sommes et nous avons été et nous continuons à l'être à la pointe de débats et de combats éthiques extrêmement pointus. Le mariage pour tous, c'est écolo. L'adoption pour les couples LGBT, c'est écolo aussi. L'IVG et le combat pour l'IVG, c'est écolo aussi. L'euthanasie pour les mineurs, c'est écolo aussi. On a toujours été hyper nickel et toujours à la pointe sur ces questions-là. Et donc, voilà, je ne comprends pas le procès que certains nous font. Mais donc, pour nous, la neutralité, elle se mesure dans les actes. Nous sommes pour une neutralité de l'État de manière très très forte et très très ferme, mais une neutralité inclusive.
Georges-Louis Boucher, MR.
À titre personnel, pour moi, la Belgique idéale, ce serait une Belgique avec 15 ministres, un chef de gouvernement élu directement, et on avance avec ça, quoi. Il y a beaucoup trop de personnalités politiques. Alors, on va passer peut-être par des étapes intermédiaires, et ça, c'est notre programme, mais un, il faut une réduction du nombre de politiques, réduction du nombre de lois, parce qu'aujourd'hui, c'est, la lasagne, elle vient aussi de ça. Je veux dire, 89 députés à Bruxelles, il faut arrêter de rigoler, c'est pas indispensable. Il y a beaucoup trop d'organismes publics et parapublics. Par exemple, le nombre de centres culturels qu'on a à Bruxelles, le nombre d'associations. Vous savez qu'il y a une centaine de politiques compétentes sur la matière culturelle à Bruxelles. C'est débile. On a des collèges communaux beaucoup trop importants. Même chose dans les zones de police. Et donc aujourd'hui, objectivement, pour certains, c'est juste pour se garantir un emploi, mais ça ne sert à rien dans les faits. Et donc nous, on veut quelque chose de plus réduit, avec plus de compétences au niveau fédéral, comme la prévention santé, par exemple. Des compétences, en tout cas, clairement partagées entre régions et fédérales. Également des régions qui sont plus responsables sur le plan financier. Par exemple, aujourd'hui, à Bruxelles, Bruxelles a plus de chômeurs que la Flandre. Pourtant, c'est le fédéral qui paye les demandeurs d'emploi à Bruxelles. Ça n'a pas beaucoup de sens. Ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut surtout une évaluation des politiques publiques, parce qu'aujourd'hui, en politique, vous dépensez 300 millions pour un projet. Bon, on dit, regardez, j'ai eu des résultats. Ben oui, bien évidemment, quand vous dépensez 300 millions, il se passe toujours un truc. Mais est-ce qu'avec 300 millions, on ne pouvait pas faire mieux? Est-ce qu'on ne pouvait pas obtenir plus de résultats? Et donc, ça obligerait tous les politiques à fixer des objectifs et ensuite à évaluer le résultat. Mais aujourd'hui, moi, je suis sidéré à quoi on dépense l'argent.
Qu'en est-il de la neutralité de l'État pour le MR?
Oui, neutralité, inscrite dans la Constitution pour une raison simple, c'est que c'est un des pivots du vivre ensemble de notre pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça c'est une grave erreur d'analyse, c'est que les gens disent mais c'est pas parce qu'un fonctionnaire porte un signe convictionnel qu'il fait pas son boulot de façon impartiale. Bah, déjà, moi je me permets d'en douter, parce que si vous n'êtes pas capable de laisser votre voile, votre kippa ou votre croix à l'entrée de la maison communale, qu'est-ce qui va me faire croire que vous êtes capable d'oublier vos convictions religieuses quand vous traitez un dossier, par exemple, de mariage homosexuel ou d'adoption par des homosexuels? Donc, un, la neutralité, elle est dans les actes, mais elle aussi dans les apparences, parce que l'apparence peut, à un moment donné, créer un doute légitime. Deux, quand vous êtes fonctionnaire, vous ne vous représentez pas vous-même, vous représentez le niveau de pouvoir pour lequel vous travaillez. Et donc, moi, je suis désolé, mais je n'ai pas envie, quand je vais voir un fonctionnaire de la région bruxelloise, que ce fonctionnaire me montre sa religion ou sa conviction politique. Parce que quand on parle de neutralité, c'est aussi le fait de ne pas porter un t-shirt, un pins d'un parti politique, par exemple. Mais moi, j'ai envie de voir quelqu'un qui représente la région bruxelloise. Et la région bruxelloise, elle n'a pas de religion, elle n'a pas de parti politique, elle applique juste la loi. Donc ça, c'est le deuxième élément, c'est qu'on est dans un monde tellement d'individualistes que en fait les gens pensent que même quand ils sont fonctionnaires, ils se représentent eux-mêmes. C'est un peu particulier. Le troisième aspect qui est fondamental, c'est que, en particulier pour la jeunesse, c'est de montrer que dans notre pays, il est possible de porter un signe convictionnel, mais il est possible de ne pas le porter. Et le problème, c'est que si vous êtes dans une ville comme Molenbeek où votre prof porte le voile, la dame au guichet de l'administration porte le voile, en plus du fait que votre mère porte le voile et que toutes les femmes dans la rue portent le voile, je ne sais pas qui va vous expliquer qu'en fait vous n'êtes pas obligé de porter le voile. On considère que c'est une position qui serait anti-islam, en fait. Beaucoup pensent ça. En réalité, c'est pas vrai. La neutralité de l'État a surtout été utilisée pour combattre la religion catholique au départ. Parce que dans notre pays, la religion catholique contrôlait énormément de choses. Et on a utilisé la neutralité de l'État pour changer les noms des vacances, pour retirer les crucifix, etc., etc., dans les administrations, les palais de justice. Et donc aujourd'hui, on applique simplement à l'islam les mêmes règles qu'on a appliquées à la religion catholique. Donc j'aimerais justement que... C'est ça, en fait, la vraie lutte contre les discriminations. C'est traiter tout le monde de la même manière.
Paul Magnette pour le Parti Socialiste.
Je pense qu'une réforme de l'État n'est ni possible ni souhaitable. Elle n'est pas possible parce qu'il faut une majorité des deux tiers. Il faut 100 sièges sur 150. Or, si on en croit les sondages, il y aura malheureusement une extrême droite et des partis d'extrême gauche qui refusent de prendre leurs responsabilités, qui auront un poids important. Ce qui veut dire qu'il y a 40 sièges déjà sur 150 qui sont inutilisables. Donc, penser qu'on va arriver à faire une réforme de l'État avec tous les autres, je pense que c'est totalement irréaliste. Et en plus, ça n'est pas nécessaire. On a donné des compétences suffisantes aux régions, aux communautés. Elles peuvent aujourd'hui développer leur propre projet. Je pense que deux choses sont vraiment indispensables. La première, c'est qu'on finance correctement les politiques fédérales. Là, il y a un vrai enjeu. Aujourd'hui, la police n'est pas suffisamment financée. Le fédéral ne finance pas suffisamment sa police, ne finance pas suffisamment les pompiers, alors c'est une compétence fédérale, ne finance pas suffisamment l'action sociale et les revenus d'insertion en particulier, ne finance pas suffisamment non plus les pensions de la fonction publique, et du coup on fait porter toute une série de charges sur les régions et sur les communes qui sont mises en très très grande difficulté. Donc ça pour moi c'est un vrai premier enjeu, un financement correct par le fédéral de ses propres compétences, plutôt qu'une énième réforme des modalités de financement qui ne fait finalement que déplumer toujours un peu plus le fédéral. Or, le fédéral, c'est la sécurité sociale, c'est la sécurité, c'est la justice, c'est la police, c'est des matières extrêmement importantes pour lesquelles on a aussi besoin de budget. Deuxième priorité, je pense que les francophones entre eux devraient mettre un peu de l'ordre dans la tuyauterie institutionnelle qui est vrai, est quand même très compliquée entre la Wallonie, Bruxelles, la communauté française, à Bruxelles, la COCOF, la COCOM, etc. C'est vrai que tout ça est assez compliqué. Et donc j'avais pris une initiative, puisque le Parti Socialiste est le plus grand parti, j'ai invité mes homologues du MR et d'Écolo, qui sont les deux partenaires de majorité, et on a ensemble dégagé un modèle qui pourrait permettre de mettre de l'ordre et de simplifier les institutions francophones, de faire aussi quelques économies, et je suis partant pour continuer le travail et le mettre en œuvre avec celles et ceux qui sont de bonne volonté.
Au sujet de la neutralité de l'État.
Alors, nous sommes favorables, nous, à l'inscription du principe de laïcité dans la Constitution. C'est un principe extrêmement important. L'État doit être neutre. L'État ne peut pas être porteur d'une religion en particulier. Et il faut toujours réaffirmer, pour moi c'est essentiel, l'absolue primauté de la loi civile sur quelque précepte religieux que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, ça va, on est dans un pays où on ne peut pas dire que les préceptes religieux dominent la vie publique, mais on n'est pas à l'abri. Dans le passé quand même, la religion dominante a profondément marqué la culture de la Belgique, ce qui était compliqué pour ceux qui n'étaient pas de la religion dominante. Je ne voudrais pas demain que d'autres religions commencent à dire « nous, on a nos propres lois, nos propres préceptes, et c'est ces préceptes qu'on doit appliquer, et pas la loi civile ». Ça, pour moi, c'est totalement inacceptable. Et donc, réaffirmer la primauté de la loi civile, c'est absolument essentiel.
Après avoir entendu tout le monde, on peut dire que tous les partis trouvent que l'État belge est trop compliqué et a besoin d'être simplifié. Par contre, personne ne se dit vraiment demandeur d'une nouvelle réforme de l'État. Surtout que la réalité politique rendra un tel scénario probablement impossible.
Globalement, les partis francophones sont demandeurs d'un État fédéral plus fort et plus efficace. Au sujet de la neutralité, laïcité de l'État, on voit de fortes divergences entre PTB et Colo versus les autres partis. Chacun se renvoyant d'ailleurs l'accusation d'agir par électoralisme.
Seul le résultat des élections nous dira s'il est vraiment possible d'avancer sur une réforme en profondeur de l'État ou si on se dirige vers des retouches plus légères.
Enfin, pour terminer, on a posé une petite question bonus à chacun des présidents de parti. Alors, cette semaine-ci, la première question c'est « Que font-ils pour déstresser ?» On vous laisse deviner qui répond quoi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour discuter économie.
Oh ben moi j'aime beaucoup les films, donc je suis plutôt un fan de cinéma et donc j'aime bien les films où il faut réfléchir, mais j'aime, pour me déstresser, j'aime aussi les films où il faut pas réfléchir. Donc ça, j'aime bien les films d'action, ce genre de films, voilà, je trouve ça plutôt déstressant effectivement.
J'ai pas de recette miracle, j'essaie d'aller courir une ou deux fois par semaine pour me déstresser tout court, mais c'est pas nécessairement avant une grande échéance, c'est simplement pour garder un petit peu la ligne, mais aussi nerveusement parce que ça fait du bien.
Moi je marche beaucoup, la marche est pour moi la meilleure manière, je marche et plutôt vite, en ville, à la campagne, peu importe, le fait de marcher, de se mettre en mouvement, de respirer profondément, c'est quelque chose qui m'apaise.
Jeux vidéo.
Je suis pas souvent stressée. Je suis parfois nerveuse Et alors là, je fais du foot, ça m'aide à déstresser, ou alors je mange. J'aime bien manger.
Je ne suis pas trop stressé, en fait, pour être franc. Mais j'ai tellement d'activités qu'en fait, je n'ai pas le temps de me stresser. Alors, je vous dirais la gestion de mon club de foot, mais les matchs des Framborins me stressent plus qu'autre chose parce que j'ai peur qu'ils perdent. Et donc, le sport auto. Je sais que ce n'est pas toujours dans l'air du temps, même si la Formule 1 est un des sports les plus populaires au monde, et on l'a vu avec la série Netflix. Mais en fait, quand vous êtes au volant d'une voiture de course, vous devez tellement vous concentrer sur ce que vous faites qu'en réalité, vous ne pensez plus à rien. Et ça, c'est quand même l'idée même de se détendre, c'est de plus penser à ses tracas et à son quotidien.
N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de ne louper aucun nouvel épisode. Et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute.
Help! Pour qui voter?